yes, y'all. Yes, yes, y'all.
Say no to the blood sucking down, pressing man.
Say no.
One, two, three,
wait.
Pilots, man your planes. Condition red. Repeat, condition red. This is not an exercise. Repeat, this is not an exercise.
Long eyes been closed and blindfolded. New dawn's rising now. The mind's old enough to know the stuff going on behind our backs. Roll with us, you might get to find the facts. Mind the gap, lift up your voices. Fists up, rejoice. It's a switch in the choices we must make. Trust, fake, trust, great minds. For the sake of our sons and daughters, yo, let's ride. Next up, fly up under wicked damn, pick a blend.
One time for the parasites, using bricks and pens to follow whims and exploit fellow man. Stay cloudy, allow me to quote Yellow Man with the manipulating boosters, neglecting the hands. A step to the end of the deepest dark forest. The hands are empty, but the souls are victorious.
Yes, if you think that you should speak what you feel.
Say yes, for the heart is still keeping the drill.
Say yes, if you got the spirit, stand on. Say yes, yes, y'all.
Yes, yes, y'all. No to the blood sucking down, pressing man.
Say no, if you're ready for some punk shackling.
Say no, if you're fed up and ready to draw. Say no way, y'all.
No way, y'all.
Y'all soldiers at attention.
Digging trench, know that we forget to mention.
We got the tailor on the table's reinvention of guerrilla warfare.
Avec Nathalie Amar, du lundi au jeudi à 15h10 TU sur RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est midi en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Pierre Boudias.
Ah, bonjour Anne, bonjour à tous.
Malgré les promesses de Donald Trump, la guerre au Moyen-Orient est loin d'être terminée.
Le président américain assure que le conflit touche à sa fin, mais les frappes se poursuivent ce mardi. Nous serons à Téhéran en début de journal, la capitale iranienne toujours sous le feu. Un conflit qui frustre les alliés des États-Unis. Les pays du Golfe s'agacent d'être les victimes collatérales de l'opération lancée par Washington. La Corée du Sud, de son côté, craint de voir les forces américaines déployées sur son sol s'envoler pour le Moyen-Orient. Inquiétude également des Européens face à l'envolée des prix du carburant. Pour certains pays, la situation face à l'inflation passe par la Russie. La Slovaquie mène la charge contre le refus de l'Ukraine de laisser transiter du gaz russe sur son sol. Et puis nous serons également en direct de l'Elysée où se tient aujourd'hui un sommet pour relancer le nucléaire civil dans le monde. Nous y retrouverons notre envoyé spécial Arthur Ponchelet. Israël n'en a pas fini avec le pouvoir iranien. Les mots durs de Benjamin Netanyahou au 11e jour de conflit au Moyen-Orient. Alors que le président américain a promis hier que la guerre serait bientôt terminée, le premier ministre israélien adopte un ton résolument martial. Pour lui, l'objectif d'Israël n'a pas changé. Il s'agit toujours d'obtenir la chute du régime de la République islamique. Alors, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur l'Iran. Siavosh Ghazi, on vous retrouve à Téhéran, la capitale intensément frappée. Ce matin, Siavosh.
Oui, bien sûr. En fait, c'était des frappes ont repris il y a une heure et ont duré une demi-heure. Des frappes très intenses dans le quartier de l'est de la capitale iranienne, donc des quartiers périphériques de la capitale où il y a de nombreuses bases militaires et d'installations militaires qui visiblement ont été visées. On n'a pas encore d'informations précises sur les cibles qui ont été visées précisément, mais dans ces quartiers-là, il y a énormément de bases militaires qui ont déjà été visées tous ces derniers jours, depuis 10 jours en fait. Dans la nuit, il y a eu des frappes importantes sur différents quartiers plutôt résidentiels de la capitale, notamment dans le nord-est où donc une usine, une zone industrielle a été visée. Et en face, il y a des immeubles résidentiels qui ont également été touchés par les frappes. Et à Karaj, donc un quartier de Karaj a été qui est une ville qui est située à 50 km à l'ouest de Téhéran. Donc il y a eu une forte explosion et ensuite les habitants de ce quartier ont vu le ciel devenir totalement bleu en pleine nuit. Et donc on parle d'une frappe avec une arme électromagnétique, en fait une arme qui explose avant de toucher le sol pour donc détruire tous les systèmes, tous les réseaux électriques et électroniques. Et donc c'est apparemment une telle arme qui a été utilisée pour la première fois depuis le début du conflit.
Merci à vous. Vosges d'intenses bombardements qui n'ébranlent pas la détermination des autorités iraniennes. Elles ont répondu à Donald Trump, mais aussi à Emmanuel Macron.
Absolument. Donc Donald Trump, c'est le porte-parole des gardiens de la Révolution qui a répondu directement dès hier soir à Donald Trump en affirmant que l'Iran avait les mains libres pour étendre la zone du conflit et que c'est l'Iran qui décidera de la fin de la guerre, pas les États-Unis. Une manière de dire que donc les États-Unis devront accepter les conditions iraniennes, notamment des garanties qu'il n'y ait pas dans l'avenir des frappes ou des attaques contre l'Iran. En ce qui concerne donc le président Macron, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Larijani, qui est une figure montante du pouvoir iranien, lui a répondu sur le réseau X en affirmant qu'il est peu probable qu'avec la guerre donc déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, que la sécurité puisse revenir dans le détroit d'Hormuz. Une manière de dire que si jamais la France envoyait des frégates, comme cela a été annoncé par le président Macron, envoyait des frégates dans la région, dans la zone du détroit d'Hormuz, l'Iran pourrait les viser. En tout cas, si par exemple une frégate française accompagne un navire de guerre, un navire commerçant donc dans le détroit et que cela est empêché par des attaques de drones et que la frégate en question vise les drones iraniens, à ce moment-là, l'Iran pourrait entrer en action et donc viser à son tour la frégate. Donc pas question de laisser passer une goutte de pétrole dans le détroit d'Hormuz, malgré donc la déclaration du président Macron.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran, merci à vous. Vous l'entendiez, Israël qui poursuit ses bombardements sur l'Iran, qui frappe également le Liban, opération qui provoque une grave crise humanitaire dans le pays. 667 000 personnes ont désormais été déplacées sur place, c'est 100 000 de plus qu'hier, annonce le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Et vous l'entendiez dans la bouche de notre correspondant à Téhéran, l'Iran est loin d'avoir déposé les armes. Les frappes sur les pays du Golfe se poursuivent en ce moment. Le Qatar annonce que le ciblage de ses infrastructures civiles continue. Koweït et Bahreïn dénoncent la mort de plusieurs personnes dans des frappes iraniennes distinctes. Les pays du Golfe qui cherchent donc activement à mettre fin à cette guerre. Mais même si les États-Unis mettaient fin rapidement à leurs opérations, ce conflit laissera des traces dans les relations entre les monarchies pétrolières et Washington. C'est ce que nous explique depuis Dubaï notre envoyé spécial Guilhem Delteil.
Je n'utiliserai pas le mot colère, mais il y a de la frustration, confie à RFI un intellectuel émirien. Pour les monarchies pétrolières, ce conflit marque que malgré leur fortune, leur influence à Washington reste limitée et souligne que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Un amer rappel pour l'ancien chef des renseignements saoudiens Turki Al-Faisal. Il a accordé une interview à la chaîne CNN la semaine dernière.
Back in 2019,
en 2019, si vous vous souvenez, nous avons été bombardés par des missiles iraniens. Et Donald Trump, à l'époque, n'a offert aucun soutien. Il n'est pas surprenant pour le royaume qu'il ne vienne pas à notre aide, si vous voulez mon avis.
Depuis le début du conflit, aucune visite officielle de responsables états-uniens dans le Golfe. Aucun dirigeant du Golfe invité à Washington. Le conflit va encourager les monarchies pétrolières à diversifier leurs alliances, mais la relation demeure stratégique sur le plan militaire comme économique et l'influence des monarchies pétrolières en Afrique est essentielle pour les États-Unis afin d'y contrer la Chine. Les intérêts profonds des deux parties survivront à la frustration causée par cette guerre. Guilhem Delteil, Dubaï, RFI.
Et cette guerre au Moyen-Orient est militaire, économique donc, mais aussi informationnelle. En Israël, alors que les frappes se multiplient, les autorités ont décidé de verrouiller un peu plus l'information, accusée de fournir involontairement des renseignements à Téhéran. Les médias sont tenus depuis le mois de juin dernier de demander une autorisation écrite pour tout reportage sur les sites d'impact de missiles. Une censure de plus en plus stricte qui s'accompagne désormais de menaces de prison et d'un climat de tension extrême pour les journalistes sur le terrain. Le point sur place avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.
Un véritable rideau de fer médiatique alors que les tirs de missiles iraniens se multiplient. La censure militaire a drastiquement durci ses directives. Tout reportage depuis une zone d'impact ou de combat nécessite une autorisation écrite préalable. Le censeur menace de poursuites pénales quiconque documente les dégâts, tandis qu'une loi d'urgence prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour la publication de vidéos non autorisées, notamment sur les réseaux sociaux. L'objectif affiché par l'armée est technique, empêcher les diffusions en direct notamment via les caméras fixes des agences de presse, qui pourraient servir de correction de tir en temps réel pour les services de renseignements iraniens. Mais sur le terrain, la réalité est plus brutale. Les Israéliens ne reçoivent qu'une information très filtrée sur les dégâts réels provoqués par les tirs en provenance d'Iran ou du Liban. Ce verrouillage s'accompagne d'un climat de tension croissante pour les reporters. Les autorités ne sont plus les seules à patrouiller. L'hostilité a franchi un nouveau cap. Des militants d'extrême droite s'en prennent physiquement à des équipes de journalistes sur des sites de frappe dans la région de Tel Aviv. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
La liberté d'expression mise à rude épreuve par ce conflit, tout comme les stocks d'armement américains.
La semaine dernière, l'Union européenne annonçait déjà que Washington ne pouvait fournir à la fois des missiles à l'Ukraine et à ses alliés au Moyen-Orient. Et c'est désormais la Corée du Sud qui pourrait payer la surutilisation de missiles par Washington. Inquiétude dans le pays après le déplacement de batteries de missiles Patriot et l'arrivée d'avions cargo de l'US Air Force. L'armement américain dans le sud de la péninsule pourrait s'envoler vers le Moyen-Orient et laisser le pays affaibli face à son voisin nord-coréen. RFI Séoul, Célio Fioretti.
C'est le sujet qui fait couler le plus d'encre à Séoul ces derniers jours. Chaque mouvement des batteries américaines en Corée est scruté pour savoir si oui ou non l'armée américaine va désarmer une partie de sa défense stationnée sur la péninsule. Pour Jang-won, étudiant à Séoul, cela n'annonce rien de bon.
Je me dis que si tous les missiles ne sont pas déplacés vers le Moyen-Orient, ça pourrait aller. Mais si tous partent, là je pense que ça deviendrait inquiétant.
Même son de cloche pour M. Kim, retraité.
Envoyer les missiles là-bas, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Envoyer des missiles comme ça pour faire la guerre, agresser d'autres pays, ce n'est pas bien. Il faudrait mieux qu'ils restent ici, dans un objectif de défense.
Les États-Unis n'ont pas confirmé leur intention de déplacer ces missiles, mais le président sud-coréen Lee Jae-myung a voulu ce matin rassurer la population.
Nous avons exprimé notre opposition à ce sujet, mais il faut réfléchir à une chose. Est-ce que cela crée un obstacle sérieux à notre stratégie de dissuasion face à la Corée du Nord ? À cette question, je peux dire que ce n'est absolument pas le cas.
Au total, les États-Unis disposent de 8 batteries de missiles Patriot en Corée et pourraient n'en déplacer qu'une partie. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Côté européen, ce sont surtout les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient qui inquiètent des pays européens qui sont présents en nombre au sommet sur le nucléaire civil qui s'est ouvert aujourd'hui en banlieue parisienne. On va y revenir. Mais alors que le prix du pétrole a fortement augmenté, la présidente de la Commission européenne a également rendez-vous ce mardi avec le Premier ministre slovaque Robert Fico. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Bruxelles, là aussi c'est l'approvisionnement énergétique qui est en jeu, avec cette fois la question de l'arrêt de l'oléoduc Droujba au centre d'un bras de fer intense entre la Slovaquie et l'Ukraine.
Oui, l'oléoduc Droujba, l'oléoduc de l'amitié, qui a rarement aussi mal porté son nom. Sa branche sud, qui traverse l'Ukraine, a été bombardée le 27 janvier par des frappes russes. Depuis, plus une goutte de pétrole n'est arrivée. Le 18 février, la Slovaquie a décrété l'état d'urgence pour l'approvisionnement, puis la libération de 250 000 tonnes de pétrole de ses stocks stratégiques. Entre-temps, la tension monte entre Bratislava et Kiev. Le premier ministre slovaque, Robert Fico, accuse Volodymyr Zelensky de traîner les pieds pour rouvrir les robinet. Avec son homologue hongrois Viktor Orban, ils estiment que les réparations nécessaires ont eu lieu. Résultat, Hongrois et Slovaques bloquent le 20e train de sanctions à l'encontre de la Russie. La Hongrie bloque le prêt européen de 90 milliards d'euros dont l'Ukraine a besoin pour avril. Et la Slovaquie propose d'ajouter son propre veto à ce blocage-là. Elle a déjà fermé sans effet l'approvisionnement d'électricité à l'Ukraine et elle exige une action de l'UE. Les Européens y voient surtout un prétexte pour mettre des bâtons dans les roues à l'Ukraine parce que l'oléoduc Adria, qui arrive de la mer Noire via la Croatie, pourrait pallier l'approvisionnement.
Pierre Benazet, correspondant de RFI à Bruxelles.
Et face aux aléas des énergies fossiles, la solution passe peut-être par l'atome.
C'est en tout cas l'idée portée par la France qui organise donc aujourd'hui le deuxième sommet sur le nucléaire. 40 chefs d'État et de gouvernement accueillis depuis ce matin par Emmanuel Macron à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Ce sommet, on le suit avec vous, Arthur Ponchelet. Bonjour.
Bonjour.
En direct de la scène musicale à quelques kilomètres donc de Paris, ce rendez-vous, Arthur, sur le nucléaire civil qui se heurte bien sûr à l'actualité géopolitique.
Oui, il s'ouvre même dans un contexte particulier, disait tout à l'heure Emmanuel Macron dans son discours, parce que, je cite, le mot nucléaire est associé à un conflit en cours, celui en Iran. Pourtant, c'est bien de nucléaire civil dont il est question aujourd'hui. Face à la hausse des prix des hydrocarbures ces derniers jours, l'atome est présenté comme un moyen pour les États de renforcer leur indépendance énergétique. C'est notamment ce qu'a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tout à l'heure.
Pour les énergies fossiles, nous sommes totalement dépendants d'importations volatiles et coûteuses. C'est un désavantage structurel par rapport à d'autres régions. Et la crise au Moyen-Orient est un rappel de la vulnérabilité que cela crée.
Ursula von der Leyen qui a annoncé ce matin une nouvelle stratégie européenne sur les petits réacteurs modulaires. Elle devrait être opérationnelle au début des années 2030. Enfin, Pierre, on parlait du contexte autour de ce sommet. Notez aussi qu'il se tient 15 ans, jour pour jour, après la catastrophe de Fukushima.
Arthur Ponchelet en direct de la scène musicale, donc à ce sommet sur le nucléaire, organisé à Boulogne-Billancourt. Et à noter que deux activistes de Greenpeace ont perturbé tout à l'heure l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ils entendaient interpeller le président français sur la dépendance du secteur du nucléaire civil à la Russie de Vladimir Poutine. Moscou accusé par les Nations Unies de crimes contre l'humanité dans le cadre de sa guerre en Ukraine. Conclusion d'une enquête internationale sur le transfert forcé d'enfants dans les zones occupées par l'armée russe. Les experts ont pu confirmer l'enlèvement de plus de 1200 de ces jeunes Ukrainiens, mais estiment que le chiffre réel est bien plus important. Et puis, un dernier mot pour vous parler de ces témoignages de victimes, de leurs proches, mais aussi de médecins recueillis en Haïti par Human Rights Watch, qui publie un rapport aujourd'hui. L'ONG l'assure, les frappes de drones par les autorités pour lutter contre les gangs armés s'intensifient, notamment à Port-au-Prince, et elles font des victimes collatérales. Ainsi, l'organisation affirme qu'au moins 43 personnes qui n'appartenaient a priori pas à des groupes criminels ont été tués depuis mars 2025. 17 enfants font également partie des victimes.
Et on aura l'occasion d'en reparler dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques juste après le journal de 13h, temps universel. Pour l'heure, toujours en temps universel, il est midi et quart et c'est l'heure de parler de l'actualité sportive. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Du foot, rien que du foot, ou presque, aujourd'hui avec le retour de la Ligue des Champions. Quatre premiers huitièmes de finale, allez au programme ce soir.
Ah ben ça c'est sûr, c'est pas la foire aux pamplemousses, hein. La Champions qui redémarre, place aux 16 meilleures équipes du vieux continent cette saison. Tous les cadors sont là, Anne, en route pour l'explosion.
Radio HDR.
Radio HDR.
Le mix des cultures.
Le mix de toutes les cultures. 99.1
FM. 99.1
FM.
Eh bien, mon cher, qu'est-ce que vous en dites?
Two slides of fun, two times you're
mala inya tenen yara bi atura tamala suba da fe mala sa nera ga
Listen my song. I hook up, tell my gangsta, nah, no art, tell my man's not carry gun, pan west.
tell my big man I lock down the place and I thump in a face, in a face. Who da tell my demon live a helper with legion? No care you a who, are you a who? I miss a who da tell who da, bitch out a who da little you da tell you.
Look how you make mama a ball. Talk about your gun them big and your gun them tall. Look how you make mama a ball. I know you can't return the car, your on the wall. Look how you make mama a ball. You should answer the phone every minute, me say when mama call. Oh, you make mama a ball. And see them knowing how you wanna, you go crawl. See them.
Who that tell them a gangster and no heart? Them a monster carry gun from west.
Yeah, man,
from
sir.
West. Who that tell them a big man a lock down the place all a jump in a face?
Yeah, man,
in a face. Who that tell them a demon live a helper with legion? No care you a who, and you a who? I me say who that tell who that? Bitch and tell you that little you that are you.
Now, your baby mother start to fret. Oh, she don't even know the next move. She don't even know the next step. Oh, you run your life to a wreck. I know your bad mama all a ball and daddy all a sweat. Hey. Well, him say him never wrap up. That's why everywhere him go, him off the top. Don't fear the soldier and him don't fear the cop up. See, they know that's why him crack up.
I saw me sing. Who that tell him a gangster now? No, I them a monster carry gun from west. Who da tell my big man a lock down the place all a jump in a face, in a face. Who da tell my demon live a helper with legion? No care you a who, and you a who? I me say who that, bitch a tell you that kickle you that a you. Hey hey, I still see in these days his story always on my mind. While mother goes to church to pray for a son she left far behind. Him not the same little boy she once knew. Him no even talk to her again. So praying is all she can do till the story comes to an end. Until the story comes to an end. Your mother will be praying for you, my friend. I would have told my youngster now no heart. Then my man's not carry gun from west. I would have tell my big man I lock down the place and I jump on the face. I saw me say, I would have tell my demon leave a helper with legion. No care you a who, and you a who? I me say, who that tell who that? Bitch I tell you that little you that are you.
HDR.
From hell, how niggas supposed to find heaven? Your daddy try rapping, your granddad revving. You scared to go to jail, so you ain't thought about trapping. Looking at the ceiling, wait to make a killing.